Matt marchait de long en large pour se calmer les nerfs. Bon sang, John avait paru réellement en colère contre lui. Mais elle reviendrait quand il le lui demanderait, pas vrai?
Matt!
Appela Mine dans le dos du jeune flambeur.
Pars avec elle et surveille-la pour moi. Mais elle n'a pas besoin de protection parce qu'elle est forte. Au nom des maudites cendres, je te l'assure. Mais de surveillance, eh bien, c'est une autre affaire. Elle m'inquiète, Mine. Hélas, j'ai cette fichue guerre à gagner. Je ne peux pas l'accompagner et vaincre ici. Donc c'est toi qui t'y colleras, d'accord?
Mine cessa de marcher et enlaça Matt.
Bonne chance, Matrim Cotton. Bonne chance, Mine Farchaud.
Matt laissa la jeune femme s'éloigner, puis il posa son achan d'areille sur son épaule. Les Séanchaniens se retiraient déjà de la colline de Dachar. Après une étape près du fleuve, ils quitteraient le champ de Merilor. Sauf s'il était un idiot fini, des mandraines les laisseraient partir. Par le fichu sang et les maudites cendres, dans quoi Matt s'était-il embarqué? Sans sourciller, il venait de renvoyer un bon quart de ses forces.
Oui, mais ces gens reviendront.
Si son pari réussissait, les dés roulant comme il l'entendait. N'était que cette bataille n'avait rien d'une partie de dés. Pour ça, cette affaire était bien trop subtile. Non, au minimum, c'était une partie de cartes. En règle générale, Matt gagnait aussi. En règle générale. Sur la droite, un groupe d'hommes en armure noire du Sean Shan marchait vers le champ de bataille.
Karede !
Appela Matt. L'officier foudroya du regard le jeune flambeur. Soudain, celui-ci comprit ce que devait éprouver une barre de métal quand Perrine la fixait en levant son marteau. Karede approcha. Même s'il faisait un effort pour paraître calme, Matt sentit qu'il bouillait intérieurement.
« Merci, dit-il d'un ton glacial, d'avoir contribué à protéger l'impératrice. Puisse-t-elle vivre éternellement ?»«
Tu penses que j'aurais dû la mettre en lieu sûr, pas dans le poste de commandement ?»«
Très haut. Il ne me revient pas de contester les décisions d'un membre du sang. »«
Tu ne contestes pas mes décisions. Tu envisages de m'embrocher avec quelque chose de très pointu. » Il y a une grande différence.
Karede expira à fond.
Excuse-moi, très haut, mais je dois aller mourir en compagnie de mes hommes.
Voilà qui m'étonnerait, l'ami. Vous allez tous venir avec moi.
L'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, a ordonné
que vous alliez sur le front.
Coupa Matt, une main en visière pour mieux voir les trollocs qui traversaient en masse la rivière.
Parfait. Selon toi, par où suis-je sur le point de partir?
Tu vas te battre?
Je pensais plutôt à une petite balade. Karede, il faut que je sente ce que mijote des mandraides. Je vais là où ça cogne, mon ami. Et mettre tes hommes et toi entre ma peau et les trollocs me semble une très bonne idée. Tu es partant?
Karede ne répondit pas, mais il ne fit pas mine de s'éloigner.
Réfléchis à tes options. Aller crever sans la moindre raison ou tenter de garder en vie l'époux de ton impératrice. Je suis presque certain qu'elle m'adore. Avec toi, ce n'est pas facile à dire.
Ne l'appelle pas par ce nom,
s'écria Karede.
Je l'appelle comme je veux.
Pas si tu désires que nous venions avec toi, prince des corbeaux. Si je dois t'accompagner, il ne faut pas que mes hommes entendent ce nom sortir de tes lèvres. Ce serait un mauvais augure.
Et on en a déjà assez comme ça,
convint Matt.
D'accord, Karede. Allons au cœur des choses et voyons ce qu'on peut faire. Au nom de Fortuna, bien entendu.
Tam salua avec son épée, comme au début d'un duel. Mais il ne vit aucun adversaire honorable en face de lui. En revanche, ça ne manquait pas de créatures rugissantes ou hurlantes. Des monstres que ses hommes et lui avaient éloignés des capes blanches en difficulté près des ruines. Se retournant, les abominations avaient fondu sur les gars de deux rivières. En tête de la formation, Tom opta pour un roseau dans le vent. Par principe, il refusait de reculer d'un pas. L'idée, au contraire, était d'avancer pour défoncer les lignes adverses. Le principe du bélier. Dans son dos, ses gars le poussaient vers l'avant, une épine dans le pied du ténébreux et tout un buisson au creux de sa paume. Dans le chaos ambiant, ces braves beuglèrent, maudirent les trolloques et se déchaînèrent pour les éparpiller. Très vite, cependant, ils durent passer à la défensive, à savoir tenir coûte que coûte leur position. La formation en fer de lance, en principe réservée à l'offensive, se révéla très efficace. Les trolloques qui tentaient de la contourner périrent sous un déluge de coups d'épée, de haches et de lances. Tam laissa l'entraînement de ses hommes les guider. Il aurait préféré être au centre de la formation pour lancer des encouragements, comme le faisait Danil. Mais il était un des rares dans ce groupe à avoir une grande expérience du combat. Et la clé d'une formation en fer de lance, c'était de placer à la pointe des gens capables de résister à tout. Du coup, Tam supportait la pression. Très calme dans son cocon de vide, il laissait venir les monstres, passant de secouer la rosée sur la branche aux fleurs de pommier dans le vent, puis aux pierres qui tombent dans la mare. Des figures qui lui permettaient de rester dans la même position, tout en combattant plusieurs adversaires. Même s'il s'entraînait depuis quelques mois, Tam n'était plus aussi fort et solide que dans sa jeunesse. Moins affûté qu'il l'avait été, il se consola en pensant qu'un roseau n'avait pas besoin de ça pour plier. Il lui suffisait d'être un roseau. Au fil des ans et avec l'âge, Tam avait appris à connaître le vide. À présent, il le comprenait mieux que jamais. Après des années à enseigner à rendre la notion de responsabilité, à vivre sans caries, à entendre le vent souffler et les feuilles bruire, Tam Altor devint le vide. L'offrant aux trolloques, il leur fit admirer, puis les expédia dans ses profondeurs. Face à un monstre à tête de chèvre, il dansa souplement et lui trancha le jarret. Son ennemi s'écroulant, Tam s'écarta et laissa les hommes qui le suivaient l'achever proprement. Zébrant l'air avec son épée, il projeta le sang qui ruisselait sur la lame dans les yeux d'un trolloque encore plus laid que ses congénères. Aveuglé, le monstre brailla après que Tam lui eut ouvert le ventre juste sous son plastron. Le trolloque bascula en arrière et reçut le coup de hache qu'un de ses semblables destinait à Tam. Chaque pas rappelant un ballet, le père de Rand invitait les abominations à danser avec lui. L'unique fois qu'il s'était battu ainsi remontait à longtemps, mais dans le vide, les souvenirs n'avaient pas leur place. Pas question de penser au passé ou à quoi que ce soit d'autre. S'il savait qu'il avait déjà fait ça, c'était grâce à la mémoire de son corps, qui reproduisait des mouvements très anciens. Comme si ses muscles n'avaient pas besoin de lui pour se contracter. Vif comme l'éclair, il fendit en deux la tête d'un trolloque, qui aurait pu passer pour un humain. N'était la pilosité excessive de ses joues. Quand la créature se fut effondrée, Tam s'avisa qu'il n'avait plus d'adversaire. Il s'immobilisa, leva son épée, et savoura la brise qui lui caressait le visage. Les monstres fuyaient en direction de l'aval de la rivière. Des cavaliers des terres frontalières les poursuivaient, les poussant vers la Légion du Dragon. Bientôt, les créatures des ténèbres seraient coincées dans un étau qui les écrabouillerait. Tam essuya sa lame et se coupa du vide. Alors, il prit conscience de la gravité de la situation. Ses hommes et lui auraient dû être morts. Sans l'arrivée de ses frontaliers... Il rengaina son épée, la lumière du soleil se reflétant sur les dragons rouges et or du fourreau. Une bizarrerie, car il n'aurait pas dû y avoir grand-chose à refléter avec un ciel si noir. Cherchant l'astre du jour, il le trouva presque sous les nuages, au niveau de l'horizon. La nuit tombait. Par bonheur, près des ruines, les trolloques semblaient définitivement vaincus. Déjà salement touchés pendant la traversée de la rivière, ils tombaient sous les coups furieux des hommes de l'âne. Tout fut très vite réglé. Tam avait tenu sa position. Monté sur un cheval noir, un porte-étendard et des gardes à sa suite, l'âne Mandragoran approcha et balaya du regard les gardes de rivière.
« Longtemps, » dit l'âne. « Je me suis demandé si l'homme qui a donné à Rand son épée au héron l'avait vraiment mérité. À présent, j'ai la réponse. »
Levant son épée, l'âne salua Tam. Celui-ci se tourna vers ses hommes, épuisés et couverts de sang. Dans la terre, on voyait très bien les traces du passage de leur formation. Loin d'avoir semé des cailloux dans leur sillage, les gardes de rivière y avaient laissé un alignement de cadavres. Au nord, les hommes de la seconde formation levèrent leurs armes. Repoussés quasiment jusqu'à la forêt, ils avaient réussi à tenir cette position, et il restait même des survivants. Ce qui signifiait que des dizaines de braves types étaient morts. Entourés de charognes, les héros de Tam s'assirent à même le sol. Certains tentèrent de s'improviser des bandages ou de s'occuper des blessés rassemblés au centre de la formation. Au sud, Tam vit un spectacle plus que déconcertant. Les Séanchaniens se retiraient de leur camp, près de la colline de Dachar.
« Avons-nous gagné ?»
demanda Tam.
« Loin de là, » répondit Lan. « Cette partie de la rivière est à nous, mais c'est très secondaire. Des Mandraides voulaient nous fixer ici pour nous empêcher d'aller soutenir les hommes qui se battent près du gué. C'est là que tout se jouera. »
Lan fit volter son cheval.
« Rassemble tes braves, maître de la lame. Ils seront encore utiles dans les heures à venir. » Taïchar Maneteren.
Lan alla rejoindre ses frontaliers.
Taïchar Malkier,
cria Tam dans son dos, avec un peu de retard.
Nous n'en avons pas encore fini?
Demanda Danil.
Non, fiston. Mais nous allons prendre une pause, faire guérir les blessés et remplir nos estomacs.
Des portails s'ouvrirent soudain non loin de là. En chef intelligent, Coton fournissait à Tam un moyen d'envoyer ses blessés à Mayenne. Ce qui... Des gens déboulèrent de ces passages, par centaines, par milliers. Tam enfonça les sourcils. Dans leur coin, les capes blanches se réorganisaient. Ces hommes avaient payé un lourd tribut aux Trollocs, mais l'arrivée de Tam leur avait épargné d'être anéantis. Les forces d'Arganda se rassemblaient près des ruines, et les membres de la garde du loup agitaient leur étendard ensanglanté. Autour d'eux, des montagnes de charognes s'empilaient. Tam avança sur des jambes qui lui semblaient peser des tonnes. S'il avait passé un mois entier à déraciner des souches, il se serait senti moins fatigué. Devant le premier portail, il trouva Berelaine, entourée de quelques Aes Sedai. Dans la boue, cernée par des cadavres, la superbe jeune femme ne semblait pas du tout à sa place. Sa robe noire et argent, son diadème. Non, elle n'était pas faite pour être ici.
« Tam Altor, »
dit-elle.
« C'est toi qui commandes ces hommes ?»«
Quelque chose comme ça. » « Première dame, excusez-moi, mais qui sont ces gens ?»«
Des réfugiés de Kemlin. J'ai envoyé des émissaires voir s'ils avaient besoin d'être guéris. Ils ont refusé, insistant pour être transférés sur le champ de bataille. »
Tam se gratta la tête. « Sur le champ de bataille ?» Tous les hommes et presque toutes les femmes capables de tenir une arme étaient déjà intégrés à l'armée. Les nouveaux venus étaient pour l'essentiel des enfants et des vieillards, plus quelques mères restées pour prendre soin des petits.
« Première dame !» Ce n'est pas un champ de bataille, mais une boucherie.
J'ai tenté de le dire,
fit Berelaine avec une ombre d'agacement.
Mais ces gens affirment pouvoir être utiles. Selon eux, tout vaut mieux qu'attendre l'issue de l'ultime bataille sur la route de Pont-Blanc, si serrés qu'ils se marchent les uns sur les autres.
Perplexe, Tam regarda les enfants s'éparpiller sur le site. Quand ils se mirent à inspecter les cadavres, le père de Rand eut un haut-le-cœur. Si les premiers reculèrent très vite, d'autres commencèrent à chercher des hommes blessés encore susceptibles d'être guéris. Une poignée de vétérans, l'escorte de ces réfugiés, se joignirent à eux, au cas où des Trollocs aussi ne seraient pas tout à fait morts. D'autres enfants, imités par des femmes, entreprirent de ramasser des flèches parmi les dépouilles. Oui, ça, ce serait utile. Très utile même. Stupéfait, Tam vit des centaines de Zingari sortir d'un des portails. Sous la direction de plusieurs sœurs jaunes, eux aussi se mirent en quête de blessés. Tam secoua la tête. Que des enfants voient des choses pareilles continuait à le troubler.
Mais si nous perdons, ils verront bien pire que ça.
Alors, si ces gosses voulaient aider, autant le leur permettre.
Tam Altor, dis-moi un peu,
fit Berelaine.
Galad d'Amodred va bien? J'ai vu ces hommes ici, mais pas son étendard.
Il a été appelé ailleurs par le devoir, madame, en aval de la rivière. Il y a des heures de ça.
Ah. Bon, guérissons et nourrissons tes hommes. Nous aurons peut-être bientôt des nouvelles du seigneur d'Amodred.
Elaine frôla du bout des doigts la joue de Gareth Bryne, puis elle lui ferma les yeux. Ensuite, elle fit signe aux hommes qui avaient découvert le cadavre du général. Ils l'emportèrent, couché sur son bouclier, la tête et les pieds pendant dans le vide.
Il s'est lancé au galop en criant,
dit Birgit.
« Droit sur l'ennemi. Impossible de l'arrêter. »« Siouan est morte, »
souffla Elaine, le cœur brisé par cette perte. Siouan, une femme si forte. Non sans peine, la jeune reine reprit le contrôle de ses émotions. La bataille. Elle devait rester concentrée sur la bataille.
« Des nouvelles du poste de commandement ?»« Le camp de la colline de Dachar a été abandonné, »
annonça Birgit.
« J'ignore où est Coton. » Les Séanchaniens nous ont laissé tomber. Que mon étendard flotte à la vue de tous,
ordonna Elaine.
Jusqu'à ce que nous ayons du nouveau sur Matt, je prends le commandement. Qu'on fasse venir mes conseillers.
Birgit partit exécuter ses ordres. Les gardes rapprochés d'Elaine continuèrent à suivre les combats. Au bord de la rivière, les Trollocs faisaient pression sur les Andoriens. Après avoir investi le corridor entre le plateau de Polov et le marécage, ils menaçaient de prendre pied sur le sol du Chiennard. Une partie des forces d'Elaine avait pu prendre les monstres à revers en contournant le marécage, soulageant un temps la pression subie par les fantassins. Mais d'autres Trollocs avaient dévalé le versant du plateau, et les Andoriens semblaient sur le point de céder. En matière de stratégie et de tactique, Elaine avait une solide préparation théorique. En revanche, son expérience était très limitée. Cependant, elle avait toute la clairvoyance qu'il fallait pour constater que ça tournait très mal. Certes, on lui avait appris que les Trollocs, en amont de la rivière, avaient été écrasés par Lan et ses frontaliers. Hélas, ça n'améliorait en rien la situation au gué de Hawal. Alors que le soleil sombrait à l'horizon, les Trollocs ne firent pas mine de se replier. À contre-cœur, les Andoriens allumèrent de grands feux et y embrasèrent des torches. Faire mettre les hommes en formation carrée était la meilleure défense possible, mais ça impliquait de renoncer à toute forme de contre-attaque. Si les Aiel et les Kerieniens étaient là et se battaient, tout reposait sur les piquiers.
« L'ennemi nous encercle lentement, » pensa Elaine.
Si les Trollocs continuaient, les Andoriens craqueraient à un moment ou à un autre.
« Par la lumière, ça sent mauvais !»
À l'horizon, le soleil sombra d'un coup dans une explosion de rouge. La nuit, les monstres auraient un avantage de plus. Avec l'obscurité, il faisait de plus en plus froid. Le pronostic premier d'Elaine, cette bataille durerait longtemps, semblait de plus en plus faux. Face aux ténèbres qui chargeaient sans relâche, l'humanité n'avait plus des mois devant elle, mais des jours.
« Majesté !»
s'écria Gibbon, en déboulant avec ses officiers. Le plastron cabossé et le tabac rouge de sang de ses hommes prouvaient que nul au monde, pas même les généraux, ne pouvait rester à l'abri des coups.
« J'ai besoin de conseils !»
dit la jeune reine en regardant Théodore, le commandant de la cavalerie, et Birgit, le capitaine général de la garde.
« On se replie ?»
proposa Gibbon.
« Crois-tu vraiment qu'on puisse se désengager ?»
lui demanda Birgit. Le jeune capitaine hésita un peu, puis il fit non de la tête.
« Donc l'affaire est entendue ?»
fit Elaine.
« Comment allons-nous gagner à présent ?»«
En tenant notre terrain !» dit Théodore. Nous espérons que la Tour Blanche pourra vaincre les Hayad, puis venir à notre aide.
Je n'aime pas rester dans un coin à ne rien faire,
dit Birgit.
C'est...
Un flot de lumière blanche déferla sur les gardes d'Elaine, en désintégrant une bonne partie. Alors qu'un trait lumineux le frôlait, le cheval de Gibbon se volatilisa sous lui. La monture d'Elaine se cabra. En jurant, la jeune reine la contrôla. Des torrents de feu. Il venait d'essuyer une attaque dévastatrice.
Lusterine!
Cria une voix amplifiée par le pouvoir.
« Je traque une femme que tu aimes! Viens te battre, espèce de lâche !»
La terre s'ouvrit non loin d'Elaine, soulevant dans les airs son porte-étendard. Alors que le drapeau s'embrasait, la jeune reine bascula de sa monture et s'écrasa sur le sol.
« Mes bébés !»
pensa-t-elle, tandis que des mains amicales l'aidaient à se relever. Avec l'aide de plusieurs gardes, Birgit parvint à hisser la jeune souveraine derrière elle, sur son cheval.
« Tu peux canaliser ?»
demanda-t-elle.
« Non, dirait-on. Aucune importance. C'est les Brain. Hisse un nouvel étendard, puis file vers l'amont de la rivière avec un escadron de gardes montés. Moi, j'emmène la reine dans la direction opposée. »
La femme debout près du destrier de Birgit salua sa chef. Pourtant, c'était une sentence de mort.
« Birgit, non !»
s'écria Elaine.
« Demandred a décidé que tu serais son appât pour faire venir le dragon réincarné. »
Birgit fit volter son cheval.
« Pas question que je laisse ça arriver. En avant !»
Alors que de nouveaux traits de lumière blanche pleuvaient, déchiquetant des gardes, l'archère lança son cheval au triple galop. Elaine serra les dents. Ses forces risquaient d'être encerclées puis débordées. Triomphant, Demandred enchaînait ses torrents de feu sur des troupes déjà presque vaincues. À lui seul, cet homme était plus dangereux que toute une armée.
« Je ne peux pas partir !»
dit Elaine dans le dos de sa championne.
« Si, tu le peux et tu le dois !»
répondit l'archère alors que son cheval fendait l'air.
Si Matt est tombé, la lumière veuille que non. Nous devrons nous doter d'un nouveau poste de commandement. Et si Demandred a frappé d'abord la colline de Dachar, ce n'est pas par hasard. Il tente de détruire toute notre chaîne de commandement. Ton rôle est de diriger les troupes à partir d'un endroit sûr et secret. Quand nous serons assez loin pour que les éclaireurs de Demandred ne puissent plus sentir que tu canalises, nous ouvrirons un portail et tu reprendras ton poste. Pour l'instant, je t'ordonne de la fermer et de me laisser te protéger. »
Birgit avait raison, que la lumière la brûle. Elaine s'accrocha à sa championne et se laissa emmener loin du champ de bataille.
« Au moins, il n'est pas difficile à trouver, » pensa Galad, les yeux rivés sur les flots de lumière blanche qui s'élevaient des rangs ennemis pour s'abattre sur les forces d'Elaine. Talonnant son cheval volé, le jeune seigneur général fonça vers le bord oriental du plateau. Dans sa tête, il revoyait en boucle le corps sans vie de Gawain, entre ses bras.
« Viens m'affronter, Loustérine !»
cria Demandred, l'écho de sa voix faisant trembler la terre. Ce monstre venait de tuer le frère de Galad. À présent, il s'en prenait à sa sœur. Faire ce qui était juste avait toujours paru facile au jeune homme, mais pas au point d'aujourd'hui. Les flots blancs, comme des flèches sur une carte, lui indiquaient la direction à suivre, et la lumière elle-même le guidait. Se glissant entre les lignes chariennes, Galad approchait de l'endroit d'où Demandred observait les forces d'Elaine, à l'aplomb de la rivière. Se fichant de blesser leurs propres camarades, des archers bombardèrent Galad de projectiles qui se fichèrent dans le sol autour de lui. Épée au clair, il se prépara à sauter de sa selle, un pied encore à l'étrier. Au moment où une flèche se plantait dans le flanc de sa monture, il se propulsa au sol. Après un rude atterrissage, il se rétablit et trancha dans la foulée la main d'un archer. Quand un naïade fondit sur lui, le médaillon devint froid contre sa peau. Insensible au tissage de l'homme, Galad lui enfonça sa lame dans la gorge. L'Aïade tituba, du sang giclant de la plaie. Avant de mourir, il ne parut pas surpris, mais seulement furieux. Bien entendu, ses cris attirèrent l'attention d'autres chariens.
« Demandred !»
lança Galad.
« Demandred ! Tu veux affronter le dragon réincarné ? Tu exiges de l'avoir en face de toi ! Il n'est pas là, mais son frère relève le défi ! Oseras-tu te dresser contre moi ?»
Des dizaines d'arbalètes se pointèrent sur Galad. Derrière lui, son malheureux cheval expira, du sang coulant de ses naseaux. Randaltor, son frère! Le choc du décès de Gawain avait un peu amorti l'effet de cette révélation. Mais s'il survivait, il devrait trancher. Serait-il fier ou honteux de ce lien? Pour l'heure, il n'aurait su le dire. Une silhouette en armure de disque se détacha des rangs de chariens. Un coup d'œil sur son visage suffisait à voir que Demandred était pétri d'orgueil. À dire vrai, il ressemblait à Altor. En tout cas, ils avaient quelque chose en commun. Le rejeté étudia Galad, debout avec sa lame rouge de sang à la main. Non loin de là, l'Aïade agonisant griffait le sol avec ses ongles.
« Tu es son frère ?»
demanda le rejeté.
« Fils de Tigraine, oui, qui est ensuite devenue une promise de la lance. C'est elle qui a donné le jour à Rand. » Sur les pentes du pic du dragon, le tombeau de Loustérine. J'avais deux frères, mais tu en as tué un aujourd'hui. Tu détiens un artefact fascinant,
dit Demandred, alors que le médaillon devenait de nouveau glacial.
Tu ne crois quand même pas que ça t'épargnera le sort de ton miteux de frère, le défunt, je veux dire. Fils des ténèbres, on se bat ou on jacasse?
Demandred dégaina son arme, ornée d'un héron sur la lame et sur la poignée.
« J'espère que tu seras plus coriace que ton frère, petit homme. Au moins ça me défoulera, parce que je suis très énervé. Loustérine peut me haïr et dire du mal de moi, mais il n'a pas le droit de m'ignorer !»
Galad avança au milieu du cercle d'arbalétriers, d'archers et d'aïades. S'il gagnait, il serait tué quand même. Alors, autant emporter un rejeté avec lui. Une fin parfaite pour lui. Demandred avança, et le duel commença. Le dos contre une stalagmite et à la chiche lueur de Kalendor, Nineveh luttait pour sauver la vie d'Alanna. À la Tour Blanche, certaines sœurs se moquaient d'elle parce qu'elle recourait encore à des techniques thérapeutiques ordinaires. Deux mains, une aiguille et du fil, à quoi ça pouvait servir, comparé au pouvoir de l'unique? Si une de ces femmes avait été là, à la place de l'ancienne sage-dame, le destin du monde aurait été scellé. Les conditions étaient terribles. Peu de lumière et aucun matériel, à part ce qu'elle gardait dans sa bourse. Pourtant, avec le fil et l'aiguille dont elle ne se séparait jamais, Nineveh cousait une plaie béante. Avant, elle avait écrasé quelques simples pour les faire avaler à Alanna. L'effet ne serait pas formidable, mais la moindre chose pouvait aider. Par exemple, en atténuant la douleur, ou en empêchant le cœur de la sœur de s'arrêter pendant l'intervention. La plaie était moche,
mais ce ne serait pas la première qu'elle recoudrait. Autant qu'elle trembla de l'intérieur, les mains de Ninevé étaient fermes et sûres, tandis qu'elle s'efforçait d'arracher à la mort la Esséda détentrice du lien de Rand. Le garçon et Moridin ne bougeaient plus, mais des ondes émanaient d'eux. Rand se battait. Un combat invisible pour Ninevé, mais sûrement décisif.
Matrim Cotton, jeune fou, tu es toujours en vie?
Matt tourna la tête vers Davram Bachéré, qui venait de le rejoindre alors qu'il chevauchait dans la pénombre du crépuscule. Avec les gardes de la mort, il était allé à l'arrière de la force andorienne qui ferraillait devant la rivière. Bachéré était accompagné par sa femme. À en juger par ses vêtements tachés de sang, elle aussi s'était battue comme une lionne.
Oui, comme tu vois. En général, je suis assez bon quand il s'agit de sauver ma peau. J'ai raté mon coup une seule fois, si ma mémoire est bonne, mais ça ne compte pas. Et toi, que fais-tu là? N'es-tu pas...
On a tripatouillé mon fichu cerveau,
grogna le maréchal du Saldaïa.
Oui, c'est exactement ça, mon gars. Avec Deira, on en a longuement parlé. Je ne commanderai plus, mais qui m'empêche de tuer quelques trollocs?
Matt approuva du chef. Après la mort de Tenobia, ce type aurait pu porter la couronne, mais il avait refusé. Parce que découvrir qu'on avait influencé ses pensées le dévastait. Du coup, il avait simplement dit que le Saldaïa combattrait auprès du Malkier, ordonnant aux soldats d'obéir à l'âne. Si tous survivaient à l'ultime bataille, on verrait ce qu'il adviendrait du trône.
« Que t'est-il arrivé ?»
demanda Bachéré.
« J'ai entendu dire que le poste de commandement est détruit. »«
C'est exact. Et les Séanchaniens nous ont abandonnés. »
« Par le sang et les cendres! Comme si ce n'était pas déjà une catastrophe! Que ces chiens soient maudits !»
Les gardes de la mort qui entouraient Matt firent mine de ne pas avoir entendu. Devant la rivière, les troupes d'Elaine résistaient, mais ça ne durerait pas. De toute façon, les Trollocs les auraient bientôt encerclés en traversant plus en amont. Les Andoriens tenaient à cause de leur opiniâtreté et de leur excellent entraînement. En formation carrée, pique brandie, ils faisaient penser à un hérisson géant. Ces unités pouvaient être divisées si demanderaient d'utiliser contre elles des fers de lance. Pour tenter d'empêcher que les Trollocs défoncent les défenses ou les contournent, Matt avait mobilisé la cavalerie andorienne et celle de la compagnie. Sous ses doigts, le jeune flambeur sentait battre le pouls de la bataille. Ce que faisait Demandred, il le captait. Pour quiconque d'autre que lui, l'issue du conflit aurait paru ne pas faire de doute. Attaque massive, dispersion des piquiers, élimination des défenses. Mais tout ça était beaucoup plus subtil. En amont, les frontaliers de l'âne, une fois les Trollocs écrasés, devaient attendre des ordres. Parfait. Le jeune flambeur aurait besoin de ses guerriers pour la prochaine phase de son plan. Trois des formations géantes de piquets faiblissaient. Mais si Matt pouvait placer une sœur ou deux au centre de chacune, ça leur redonnerait du cœur au ventre. Avant ça, les assauts du rejeté avaient abattu des milliers de piquets. Pour faire des ravages, Demandred n'avait pas besoin de tuer les gens un à un. Un seul tissage, et c'était toute une formation qui volait en éclats. Ensuite, les Trollocs avaient beau jeu d'étriper les survivants.
« Bachéré, »
fit Matt.
« Dis-moi que quelqu'un a des nouvelles de ta fille. »«
Non, »
répondit Deira.
« Désolé.
Maudite cendre et pauvre Périne. »
Et pauvre Matrim Cotton. Sans le corps, comment allait-il s'en sortir? Alors qu'il n'était même pas sûr de s'en tirer avec l'instrument.
« Phil !»
dit soudain Matt.
« Va rejoindre l'âne en amont, et dis-lui d'intercepter les Trollocs qui tentent de prendre à revers les Andoriens. Ajoute que j'aurai bientôt d'autres ordres pour lui. »«
Mais je... »«
Bah chérie, je me moque que tu aies été touché par les ténèbres. Chaque homme a eu un jour ou l'autre les doigts du ténébreux posés sur son cœur. Ça, c'est la fichue vérité. Mais on peut lutter contre toutes les influences. Alors rejoins l'âne et dis-lui ce qui doit être fait. »
D'abord sur la défensive, Bachéré se détendit et sourit derrière sa moustache. Fichu crétin du Saldaïa. Ils adoraient se faire souffler dans les bronches. Requinqué par le sermon de Matt, Bachéré partit au galop, Deira à ses côtés. Se retournant, la légendaire matrone coula à Matt un regard plein de tendresse, ce qui le perturba hautement. Bien, à présent, il avait besoin d'une armée et d'un portail.
« Triple crétin !»
pensa-t-il. Il avait renvoyé les damanes. N'aurait-il pas pu en garder au moins une? Et tant pis si leur simple vue lui donnait la chair de poule. Matt tira sur les rênes de Pépin et les gardes de la mort l'imitèrent. Quelques-uns allumèrent des torches. Se joindre à Matt pour affronter les chariens avait dû leur en ficher un coup, ce qu'ils désiraient en fait, mais ils semblaient en revouloir une couche. Par ici, pensa Matt, en se dirigeant vers un rassemblement d'hommes et de femmes au sud des formations de Piki et d'Elaine. Les fidèles du dragon. Avant que les Séanchaniens quittent la butte, Matt avait chargé cette force de soutenir les défenseurs d'Elaine. À présent, il ne savait toujours pas que faire de ces gens. Lors de la réunion, il n'était pas au champ de Merilor, mais il avait entendu des rapports. Des hommes et des femmes de tous les grades et de toutes les positions, même chose pour les nationalités, étaient venus pour participer à l'ultime bataille, oubliant toute notion d'allégeance et d'intérêt national. Face à Rand, les liens et les loyautés s'effaçaient. Avançant au trot, les gardes de la mort forcés de courir pour le suivre, le jeune flambeur se glissa à l'arrière des lignes d'Andor. Des lignes qui partaient en quenouille au nom de la lumière. Un désastre. Mais bon, il avait parié, et maintenant, il ne lui restait plus qu'à se laisser porter par la fichue bataille, en espérant qu'elle ne le désarçonnerait pas. Alors qu'il fonçait vers les fidèles du dragon, il entendit quelque chose d'incongru. Une chanson ? Matt tira sur ses rênes. Les ogiers étaient venus combattre les Trollocs, et ils avaient traversé le lit asséché de la rivière pour soutenir le flanc gauche d'Elaine, côté marécage, et empêcher des monstres de débouler par là. Ils tenaient toujours le terrain, aussi inébranlable que des chaînes pendant une inondation. Tout en jouant de la hache, ils chantaient, et des charognes de Trollocs s'empilaient autour d'eux.
« Loyal !»
cria Matt, dressé sur ses étriers.
« Loyal !»
Un des ogiers s'écarta de ses compagnons et se retourna. Matt eut du mal à en croire ses yeux. Son ami, d'habitude si placide, avait les oreilles en berne, les dents serrées de rage, et il brandissait une hache au tranchant rouge de sang. Cette vision terrorisa Matt. Mieux valait soutenir le regard de 10 truands convaincus qu'il avait triché que celui d'un seul ogier en colère. Loyal lança quelque chose à ses amis, puis il reprit sa place au combat, devenu une machine à tailler en pièces les Trollocs. Les monstres et les ogiers étaient à peu près aussi grands, pourtant Loyal et les siens semblaient dominer leurs adversaires. En outre, ils ne se battaient pas comme des soldats, mais comme des bûcherons qui débitent des arbres. Une scierie à Trollocs, en quelque sorte. N'était un détail. Les ogiers détestaient qu'on coupe des arbres. En revanche, des Trollocs... Très vite, les monstres se débandèrent. Alors que des soldats d'Elaine leur bloquaient le passage, bien décidés à les massacrer, les ogiers reculèrent en direction de Matt. Ils étaient des centaines, dont beaucoup de jardiniers, les semblables de Loyal venus du Séanchan. Ça, ce n'était pas un ordre donné par le jeune flambeur. Les deux groupes se battaient côte à côte, certes, mais ils évitaient soigneusement de se regarder. Tous les ogiers, mâles comme femelles, étaient couverts de plaies sur les bras et les jambes. Normal, puisqu'ils ne les protégeaient pas. Cela dit, avec leur peau dure comme de l'écorce, ce n'était que des écorchures. Hache sur l'épaule, Loyal approcha de Matt et de ses gardes de la mort. Son pantalon était rouge foncé jusqu'aux cuisses, comme s'il avait foulé du raisin.
« Matt, » dit-il de sa voix de stentor, « nous avons fait ce que tu demandais. Pas un Trolloc n'a franchi nos lignes. »«
Tu t'en es bien tiré, Loyal. Merci beaucoup. »
Matt attendit la réponse. Une longue tirade exaltée, comme d'habitude. Mais Loyal se contenta d'inspirer et d'expirer lourdement, avec des poumons contenant assez d'air pour remplir toute une pièce. Pas un mot. Ses compagnons, souvent plus vieux que lui, ne dirent rien non plus. Certains portaient des torches, remarqua Matt. Logique, puisque la nuit était tombée. Des ogiers muets. Eh bien, ça valait une sacrée cote. Cela dit, des ogiers en guerre, le jeune flambeur n'en avait jamais vu. Même dans les souvenirs qui ne lui appartenaient pas.
« J'ai besoin de vous, Loyal. Nous devons renverser la situation, sinon nous sommes fichus. Suivez-moi. »
« Vous avez entendu l'ordre du sonneur de corps ?»
beugla Loyal.
« Hache haute !»
Matt fit la grimace. S'il avait un jour besoin de quelqu'un pour crier un message entre Kaemlyn et Kaerien, il saurait à qui s'adresser. Sauf qu'on l'entendrait aussi dans la flétrissure, très probablement. Il talonna Pépin. Les gardes de la mort le suivirent, et les ogiers leur emboîtèrent le pas.
« Très honoré, » dit Karédé. « Mes hommes et moi avons l'ordre de... »«
D'aller crever sur le front, oui, et je fais mon possible pour que ça arrive. S'il te plaît, attends encore un peu pour t'enfoncer ton épée dans le ventre. »
L'officier se rembrunit, mais il ne dit rien.
« Elle ne veut pas vraiment que vous mouriez, »
ajouta Matt. Il n'en révéla pas plus pour ne pas dévoiler le plan qui ferait revenir Tuon.
« Si ma mort sert l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, je me sacrifierai de bon cœur.
Tu es fou, allié, Karédé.
Hélas, moi aussi. Donc tu es en bonne compagnie.
Hé, hey, mon gars, là! Qui dirige cette force?
La colonne avait atteint les lignes arrières, où étaient postées les réserves des fidèles du dragon, les blessés et les combattants qui récupéraient un peu avant de repartir au front.
« Seigneur !» répondit un éclaireur. « Ce doit être Dame Tina. Va la chercher, mon vieux !»
Dans la tête de Matt, les déroulait plus bruyamment que jamais. Il se sentait aussi comme aspiré vers le nord, à croire qu'il était un pantin dont quelqu'un tirait les ficelles.
« Pas maintenant, Rand. Je suis fichtrement occupé. »
Pas de couleur tourbillonnante, rien qu'une morne obscurité, aussi sombre que le cœur d'un myrdral. L'attraction se fit plus forte.
« Non, pas maintenant !»
pensa Matt en bannissant la vision. Ici, il avait du pain sur la planche. Un plan à mettre à exécution. Fasse la lumière qu'il fonctionne. Tina s'avéra être une jolie femme. Plus jeune qu'il l'aurait cru, mais grande et très costaude. Ses cheveux bruns en queue de cheval, avec des mèches vagabondes de ci de là, elle portait un pantalon. À en juger par l'épée qui battait son flanc et par le sang noir de Trolloc sur ses manches, elle ne se contentait pas de suivre l'action de loin. Immobilisant sa monture, elle étudia le jeune flambeur de la tête aux pieds.
« Alors, seigneur Cotton, tu t'es enfin souvenu de nous ?»
Décidément, oui, Tina avait quelque chose de Ninévé. Matt leva son œil unique vers le plateau de Polov. La bataille entre les Aes Sedai et les Ayad tournait à la foire d'empoigne.
« Il faut que tu gagnes, Egwen. Je compte sur toi. »«
Ton armée !»
fit Matt en étudiant lui aussi Tina.
« J'ai entendu dire qu'elle compte des Aes Sedai. »
« Quelques-unes, oui. »
admit Tina, méfiante.
« Tu en es une aussi ?»«
Non, enfin, pas exactement. »«
Pas exactement ? Que veux-tu dire par là ?»«
Bon, femme, j'ai besoin d'un portail. Sans ça, nous risquons de perdre. S'il te plaît, dis-moi que tu as avec toi des gens capables de m'envoyer là où je dois aller. »
Tina pinça les lèvres.
« Je n'essaie pas de t'agacer, seigneur Cotton, mais prudence est mère de sûreté, et j'ai appris à ne pas parler de certaines choses. » J'ai été chassé de la Tour Blanche pour des raisons complexes. Navré, mais je ne sais pas ouvrir un portail. Et parmi mes Aes Sedai, je crains que la plupart ne soient pas assez fortes pour ça. C'est un tissage qui exige beaucoup de puissance. Bien au-delà de ce que...
Moi, je peux en ouvrir un.
Une femme en robe rouge s'écarta d'un groupe de blessés qu'elle était en train de guérir. Frêle, voire osseuse, elle tirait franchement la tête. Heureux de la voir, Matt l'aurait volontiers embrassée, même si ça serait revenu à faire la bise à du verre cassé. Eh bien, tant pis, il aurait pu le faire.
« Teslin !»
s'écria-t-il.
« Que fiches-tu ici ?»«
Sauf erreur de ma part, je participe à l'ultime bataille. »
fit la terrible sœur en se frottant les mains.
« On n'en est pas tous là ?»«
Oui, mais pourquoi avec les fidèles du dragon ?»«
Après y être revenu, je ne me suis pas senti très bien à la Tour Blanche, car elle a beaucoup changé. Ici... J'ai saisi l'occasion de m'intégrer à un groupe au nom de l'intérêt général. Bon, tu veux un portail? De quelle taille?
Assez grand pour faire voyager le plus de soldats possible. Les fidèles, les ogiers et un escadron de cavalerie de la compagnie.
Il me faudra un cercle,
dit Teslin.
Tina, ne prétends pas être incapable de canaliser. Je sens que tu le peux. Ici, aujourd'hui, les allégeances et les promesses passées ne comptent plus. Rassemble les autres femmes. « Où irons-nous, Cotton ?»
Matt eut un grand sourire.
« Au sommet du plateau de Polov. »«
Le plateau ?» s'écria Karédé. « Mais tu l'as abandonné au début de la bataille. Cette position, tu l'as offerte aux créatures des ténèbres. »«
Oui, c'est exact. »
Et maintenant, le jeune flambeur avait une chance d'en finir avec tout ça. Devant la rivière, les forces d'Elaine tenaient le coup, et Egwen se battait à l'ouest. À lui de prendre la moitié nord du plateau. Avec le départ des Séanchaniens, et alors que ses propres troupes étaient concentrées sur le versant ouest et le pied du plateau, Demandred allait sûrement envoyer une force importante de Chariens et de Trollocs du côté nord du plateau, afin qu'elle dévale le versant, traverse la rivière et prenne à revers l'armée d'Elaine. Si les choses se passaient ainsi, les défenseurs de la lumière seraient encerclés et à la merci du rejeté. La seule chance, c'était d'empêcher l'armée des ténèbres de descendre du plateau. Et ce, malgré leur supériorité numérique. Un sacré pari, mais parfois, il fallait faire avec ce qu'on avait.
« Tu divises dangereusement nos forces, » dit Karédé, « en envoyant là-haut des troupes qui seraient utiles ici.
tu prends le risque de tout perdre.
Je croyais que tu voulais aller en première ligne.
Lâcha Matt.
Loyal, tu es de l'aventure?
Frapper au cœur de l'ennemi, Matt. Depuis que je vous suis tous les trois, je me suis retrouvé dans de pires endroits. J'espère que Rand va bien. Tu penses que oui, pas vrai?
S'il était mort, nous le saurions. Mais il va devoir s'en tirer seul, parce que Matrim Cotton ne lui sauvera pas la mise ce coup-ci. Teslin, occupons-nous de ce portail. Tina, organise nos forces. Qu'elles soient prêtes à charger dès que le portail s'ouvrira. Nous devons prendre le versant nord de ce fichu plateau, et on en est clair. Et après, il faudra le tenir, quoique les ténèbres envoient contre nous.
Egwene ouvrit les yeux. Alors qu'elle n'aurait pas dû être dans une pièce, elle reposait sur un lit. L'air sentait le sel et le décor était somptueux.
Je rêve, voilà tout.
Où était-elle morte? Voilà qui aurait expliqué l'atroce souffrance. Pire que tout ce qu'elle avait connu. Le néant était préférable à une torture pareille. Gawain, mort. Une partie d'elle-même arrachée.
J'avais oublié à quel point elle est jeune.
Egwene trouva cette voix familière. Sylviana?
Veille sur elle. Je dois retourner sur le front.
Comment ça se passe là-bas?
Egwene reconnut aussi cette voix-là. Rosil, une sœur jaune. Avec les novices et les acceptés, elle était partie pour Mayenne afin de guérir les blessés.
La bataille, c'est un désastre.
Sylviana n'était pas du genre à prendre des précautions oratoires.
Veille sur elle, Rosil. Elle est forte. Je parie qu'elle surmontera cette épreuve. Mais il y a quand même toujours un risque.
Sylviana, j'ai déjà aidé des femmes en deuil de leur champion. Ne t'en fais pas, je sais y faire. Pendant quelques jours, elle sera abattue, mais après, ça commencera à aller mieux.
Ce garçon,
maugréa Sylviana.
J'aurais dû savoir qu'il provoquerait sa perte. La première fois que j'ai vu comment elle le regardait, j'aurais dû le prendre par les oreilles, l'exiler dans une ferme très lointaine, et l'obliger à y travailler pendant 10 ans.
On ne contrôle pas si facilement un cœur, Sylviana.
Les champions sont une faiblesse. C'est ainsi depuis toujours, et ça le restera jusqu'à la fin des temps. Ce garçon, c'est idiot.
Cet idiot,
dit Egwene,
m'a sauvé face à des tueurs séanchaniens. Sans son intervention, je ne serais pas là pour le pleurer. Je te suggère de t'en souvenir, Sylviana. Surtout quand tu parles d'un mort.
Les deux sœurs ne répondirent pas. Luttant contre la douleur du deuil, Egwene tenta de s'éclaircir les idées. Elle était à Mayenne, bien entendu. Sylviana l'avait conduite auprès des sœurs jaunes.
Je m'en souviendrai, mère,
dit enfin la gardienne, en paraissant presque sincère.
Repose-toi, je vais. Se reposer, c'est bon quand on est mort, Sylviana,
fit la chère dame Irline en se levant. Sylviana et Rosil se tenaient devant la porte de la superbe chambre, tendue de velours bleu au-dessous du plafond décoré d'incrustations de nacre. Avec un bel ensemble, les deux sœurs croisèrent les bras et foudroyèrent leur dirigeante du regard.
« Mère, tu traverses une épreuve terrible !»
dit Rosil. Pas loin de la porte, Lelouine montait la garde.
« La perte d'un champion, »
continua Rosil,
« peut terrasser n'importe quelle femme. Il n'y a pas de honte à prendre le temps de surmonter ton chagrin. »
« Egwene Alvéré peut avoir du chagrin, »
fit Egwene, un peu hésitante sur ses jambes.
« Elle a perdu l'homme qu'elle aimait, le sentant mourir à travers un lien. La chair d'Amirline a de la sympathie pour elle, comme elle en aurait pour tout Aes Sedai si cruellement frappée. Cela dit, alors que l'ultime bataille fait rage, la chair d'Amirline estime qu'Egwene Alvéré doit se ressaisir et reprendre le combat. »
Egwene avança, chaque pas plus assuré que le précédent. Tendant la main, elle indiqua à Sylviana de lui rendre le Saangreal de Vora.
« J'en aurai besoin. »
La gardienne hésita.
« Sauf si vous voulez toutes les devoirs de quoi je suis capable en ce moment. Je vous déconseille l'insubordination. »
Sylviana interrogea du regard Rosil, qui soupira et capitula à contre-cœur.
« Je n'avaliserai pas ça, mère, mais si tu insistes... »«
Et comment que j'insiste ?»«
Dans ce cas, permets-moi une suggestion. L'émotion menacera de te détruire. » Là est le danger. Après la mort d'un champion, t'unir au Saïdar sera difficile. Et si tu y parviens, faire montre de la sérénité d'une Aes Sedai se révélera impossible. Ça peut être risqué. Très risqué.
Egwene voulut s'unir à la source. Comme Rosil l'avait mentionné, ce ne fut pas un jeu d'enfant, à cause du tourbillon d'émotions qui la distrayait et ruinait son calme. Du coup, elle échoua 2 fois. Sylviana ouvrit la bouche, sans doute pour lui dire d'aller se recoucher. À cet instant, le bourgeon fleurit dans l'esprit d'Egwene, et le pouvoir de l'unique se déversa en elle. Avec un regard plein de défis pour sa gardienne, elle commença à tisser un portail.
« J'ai encore quelque chose à te dire, mère, »
fit Rosile.
« Tu ne seras pas capable de chasser totalement les émotions qui te perturbent. La seule option, qui est très mauvaise, sera de bannir le chagrin et la douleur en éprouvant des sentiments plus forts. Ça ne devrait pas être difficile, »
souffla Egwen. Prenant une grande inspiration, elle absorba en même temps plus de pouvoir. Alors, elle lâcha la bombe à sa colère contre les ténèbres, qui menaçaient le monde et qui lui avaient pris Gawain.
« J'aurai besoin qu'on veille sur moi, »
dit Egwen, reprenant les propos de Sylvana pour les tourner en ridicule. Pour elle, Gawain n'avait jamais été une faiblesse.
« Bref, il me faut un nouveau champion. »
« Mais... »
commença Rosile. D'un regard, Egwen lui imposa le silence. Oui, c'était vrai. La plupart des sœurs attendaient un long moment. Et de fait, Egwen Alvéré, touchée au cœur, ne pourrait jamais remplacer Gawain Trakand. Mais elle croyait au champion, et elle avait besoin que quelqu'un surveille ses arrières. De plus, un homme lié devenait un bien meilleur guerrier qu'avant. Continuer sans champion, c'était priver la lumière d'un combattant d'élite. Dans la pièce, quelqu'un lui avait déjà sauvé la vie.
« Non, »
pensa une part d'elle-même.
« Pas une Séan Chanienne. »
La chère d'Améline se moqua de tant de naïveté.
« Cesse d'être une gamine. »
Oui, elle allait prendre une championne.
« Leilouine sans navire, acceptes-tu cette mission ?»
La Séan Chanienne s'agenouilla et inclina la tête.
« Je... oui. »
Egwen tissa le lien qui l'unirait à Leilouine. Quand ce fut fait, la Séan Chanienne se leva, l'air moins épuisé, et prit une grande inspiration. Egwen ouvrit un portail dans un coin de la chambre. Se servant de ce qu'elle connaissait de la pièce, elle en tissa un autre qui donnerait sur le champ de bataille. Dès qu'il fut ouvert, le vacarme des armes et des hommes en sortit. Egwen retourna vers la boucherie, avec la rage de la chair d'Amirline comme viatique. Démandred était un maître de la lame. Galad avait supposé qu'il en serait ainsi, mais il valait toujours mieux vérifier. À l'intérieur du cercle de Charien, les deux hommes virevoltaient comme des danseurs. Son équipement bien plus léger, Galad avait sur le rejeté l'avantage de la vitesse. L'armure de disque de Démandred le ralentissait un peu, mais lui offrait une très bonne protection.
« Tu es meilleur que ton défunt frère !»
annonça Démandred.
« Facile à tuer, celui-là !»
Le rejeté essayait d'énerver Galad, mais il n'y parviendrait pas. Prudent et presque détaché, le jeune homme passa à l'attaque. D'abord avec un courtisan qui agite son éventail, auquel Démandred répliqua par une figure très semblable au piquet du faucon. L'assaut paré, Démandred recula, puis longea le cercle de spectateurs, sa lame sur le côté. Au début, il était bavard comme une pie. À présent, il ne lançait plus qu'une saillie de temps en temps. À la lueur des torches tenues par les chariens, les deux adversaires se jaugeaient. Une feinte par-ci, une autre par-là.
« Viens à présent !»
dit Démandred.
« Je t'attends !»
Galad resta de marbre. Chaque minute qu'il gagnait, c'était des torrents de feu en moins sur Elaine et son armée. Le rejeté comprit ce calcul, et ce fut lui qui passa à l'attaque. Trois frappes, une aux jambes, une aux flancs et un revers au torse. Galad para sans difficulté. Du coin de l'œil, il capta un mouvement. Une grosse pierre que Démandred venait de lui lancer. Galad l'évita de justesse, puis il se prépara à la volée de coups qui suivit. Le sanglier qui dévale la colline vint s'écraser contre sa lame. Il ne céda pas un pouce de terrain, mais ne parvint pas à bloquer la botte suivante, récoltant une plaie au bras. Démandred recula, du sang coulant de sa lame. Les deux hommes recommencèrent à se tourner lentement autour. À l'intérieur de son gant, côté bras blessé, Galad sentit un liquide chaud. Même minime, une hémorragie pouvait affaiblir un homme et le ralentir. Galad renonça à réfléchir et interdit à son esprit de s'inquiéter. Quand vint le coup suivant, il l'anticipa, s'écarta, prit son arme à deux mains et fit une profonde entaille à la pièce de cuir qui défendait le genou de son adversaire. Au coup suivant, sa lame glissa sur le flanc de l'armure adverse, mais elle finit par infliger une blessure au rejeté. Quand il la retira, Galad vit que Démandred boitait un peu.
« Tu as versé mon sang !» dit-il avec une grimace. « Voilà longtemps que personne ne m'avait fait ça !»
Sous les pieds de Galad, la terre gronda et sembla devoir s'ouvrir. Faute de mieux, il bondit en avant et se retrouva très près de Démandred, qui fut contraint de cesser de canaliser pour parer au plus pressé. Le rejeté grogna de rage, mais Galad allait enfin pouvoir tromper sa garde. Trop près pour décocher un grand coup, Galad leva son épée et la propulsa, pommeau en avant, vers le visage de son adversaire. Démandred lui saisit le poignet au vol, mais Galad referma sa main libre sur le casque du rejeté, essayant de le lui enfoncer sur les yeux. Les deux hommes s'immobilisèrent, chacun neutralisant l'autre. Soudain, avec un bruit répugnant que Galad entendit très bien, le muscle de son bras blessé se déchira. Son épée lui échappa, son bras se contracta, et Démandred le poussa en arrière. Puis il abattit sa lame. Galad tomba à genoux. Son avant-bras droit, coupé net par la lame du rejeté, tomba sur le sol, devant lui. Démandred recula un peu, le souffle court. Il n'avait pas été sûr de vaincre. Une bonne chose, ça. Serrant son moignon, Galad cracha au pied du rejeté, qui leva de nouveau son arme. Alors, tout devint noir.